Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour. Sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr avec Corinne Morel d'Arleux. Bonjour.
Bonjour.
Ah, on s'était manqué quand même, hein?
Oui, on s'est manqué, effectivement. Je dois avouer à ma grande honte que pour la première fois depuis le début de ce mandat et de nos comptes rendus de mandat radiophonique, j'ai raté une étape, une session plénière qui était la dernière de l'année où les choses se sont considérablement enchaînées pour moi à un rythme effréné au début de cet été avec côté perso un déménagement et puis côté politique un déplacement de nouveau en Syrie du Nord.
Donc c'était juste après cette plénière, du coup on n'en retient rien.
Bah non, enfin j'y suis revenue du coup un petit peu sur mon blog, sur les réseaux sociaux, on a fait la com par ce biais-là du coup pour ceux que ça intéresse, ils peuvent retrouver ça assez aisément sur internet.
Alors on va parler de la commission permanente du 19 septembre, c'est tout frais ça aussi, un petit décalage près, une commission permanente où c'est encore une fois l'occasion de donner des subventions à droite, à gauche ou de se poser la question si c'est pertinent de le faire.
Ouais, c'est effectivement. Donc, il y a eu cette commission permanente, donc avec toute une succession à nouveau de rapports. Donc, on en a relevé quelques-uns qui nous paraissaient, un peu symptomatiques, comme toujours des politiques régionales. Bon, d'abord une réussite en demi-teinte, c'est que à force de protestation, on a réussi à faire retirer un rapport pour financer à hauteur de 22 000 euros l'association qui s'appelle SOS Chrétiens d'Orient, qui est une association dont les liens avec l'extrême droite sont régulièrement mis en lumière par un certain nombre de journalistes, voire d'élus donc d'opposition. C'était pas la première fois qu'il y avait une tentative de faire passer en douce un rapport de financement de cette association. Et donc, à nouveau, elle a été retirée. Donc voilà, on s'interroge un peu sur ces pas de deux, ces entrechats de la majorité qui doit assumer le fait de vouloir financer ce type d'officine, soit définitivement y renoncer, mais en tout cas essayer de mettre ces rapports au vote et les retirer dès lors qu'il y a protestation, commence à ressembler à un manque d'assurance un peu curieux de la part de la majorité.
Ça pourrait être retoqué systématiquement, quoi, même pas arrivé en commission, en fait.
Ben là, de fait, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le rapport a été retiré avant d'être soumis au vote.
Bon. Et c'était pas ces personnes-là qui étaient allées visiter déjà Laurent Wauquiez à un moment donné, il était question d'apporter un soutien aux chrétiens d'Orient. Et puis, vous aviez rediscuté le fait qu'il fallait apporter un soutien à tout le monde, finalement, en dehors de l'association. Hein.
Oui, en dehors de l'association, il y a effectivement un plan d'aide aux minorités persécutées au Proche et Moyen-Orient qui a été voté, qui vient en aide, du coup, à toutes les minorités persécutées. Au départ, ça devait être uniquement les chrétiens d'Orient. Nous, on n'a évidemment rien contre le fait d'aider les chrétiens d'Orient, mais il ne faut pas oublier les Kurdes, les Yézidis, les minorités sexuelles, toutes les autres formes de persécution. Et donc, le plan a été élargi. Après, il faut effectivement être très vigilant sur les structures auxquelles on donne de l'argent pour venir en aide à ces minorités. Et cela ne doit pas être l'occasion d'exacerber des formes de racisme et de xénophobie, naturellement.
Donc, on sait où mettre ces 22 000 euros, si jamais. Hein.
Tout à fait. Voilà. On a plein d'idées.
Alors, on voit le logo partout. Hein. Adi, en ce moment, le logo de la région est en bas, Chabestan. Je ne sais pas ce qu'ils font. Ils labourent la terre.
Alors,
mais la région nous aide.
C'est effectivement, il y a une espèce de floraison de panneaux là, de la région de plus en plus. Ça avait déjà provoqué un peu d'agacement parce que la région avait imposé à toutes les communes, tous les petits villages, de mettre le panneau de la région à l'entrée des villes dès qu'il y avait une subvention. Donc, du coup, il y en a partout, quel que soit d'ailleurs le montant de la subvention et sa destination.
Oui, c'était la question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de minimum pour avoir son panneau ?
Non, ça fait partie des contreparties, en fait, comme pour le mécénat d'entreprise.
Donc, il est payé par la région, ce panneau ?
Oui, tout à fait. Il est payé par la région, donc par nous hein, en réalité. On a beaucoup de mal à obtenir des informations malgré le fait qu'on les ait déjà demandé plusieurs fois. Des coûts cachés en matière de communication qui vont se glisser du coup dans plein de lignes différentes, dans plein de commissions différentes. Sachant que, bon, effectivement, ça a un coût et ça a un coût qui se multiplie puisque après les panneaux d'entrée dans les villes, on a vu fleurir le logo de la région sur les plateaux des cantines des lycées, sur les blouses des lycéens en lycée pro. Et là, à l'heure de cette commission permanente, on a vu passer une nouvelle forme d'affichage, puisque c'est maintenant les fanfares de la région, qui sont donc financées en partie par la région, qui devront arborer le logo de la région sur leur...
Alors on leur a fait un drapeau par exemple, une héraldique, tout ça, d'où le blason.
D'où le blason, tout
ah,
à
enfin,
fait.
Enfin, on va pouvoir s'en servir.
Tout à fait, donc voilà, dans le concours de ma binette partout, je crois que là la région est en train de effectivement récolter le pompon.
Et ça sert à quoi? Est-ce que concrètement il y a une retombée communicative intéressante, les gens sont fiers, je sais pas?
Bah, là où c'est, on va dire, la version positive... C'est que malgré tout, ça permet quand même de montrer aux habitants que la région n'est pas juste un truc lointain et qu'en réalité, elle œuvre au quotidien sur plein d'aspects de la vie des habitants. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que c'est vrai que souvent, les gens ne se sentent pas très concernés par la région et n'ont pas forcément en tête que la région a largement son mot à dire sur la question des TER, des lycées et tout un tas d'autres compétences, notamment d'aménagement du territoire. Donc ça, c'est plutôt pas mal en matière de communication. Après, le fait que ça passe par ces gros panneaux qui, par ailleurs... Voilà, on le voit ici, bon, c'est une question de goût, hein, mais moi je trouve que ça défigure quand même un peu le paysage. Voilà, il y a peut-être d'autres moyens de communiquer à destination des habitants et puis d'utiliser l'argent public. Il y a déjà un magazine de la région qui est déposé dans l'ensemble des boîtes aux lettres.
Mais pas toujours. Hein.
Pas toujours.
Voilà.
Bon. Mais en tout cas, enfin voilà, il y a d'autres moyens de communication et ces gros panneaux là et ce logo appliqué partout commence à être un peu agaçant quand même et à être surtout un peu coûteux également, alors que on sait à quel point l'argent manque pour beaucoup de petites structures de la région.
Par contre, pour faire la fête, là, il n'y a pas de problème. Hein.
Oui, c'est une autre de ces petites perles que nous avons relevées dans les rapports de la commission permanente. C'est une subvention de 8000 euros pour le gala universitaire de Lyon 3. Un gala, donc une soirée hein, de fête, qui coûte quand même en tout 110 000 euros. Alors que l'entrée est déjà payante à 30 euros, ce qui quand même sur un budget étudiant représente une somme assez considérable.
Est-ce qu'on peut faire passer la carte région?
Non, je ne suis pas sûre que le pass région puisse servir à entrer au gala de Lyon 3. En tout cas, voilà, une fois de plus, on peut se demander si ces dépenses sont vraiment nécessaires et prioritaires, alors que par ailleurs, la région se vante de réaliser des économies et plutôt que de financer le gala de Lyon 3, elle ferait peut-être mieux... de profiter de ces économies pour financer, par exemple, la formation des chômeurs qui s'est vue amputée de 150 millions d'euros. Donc voilà, il y a économie et économie, il y a priorité et priorité. Et en matière d'utilisation d'argent public, une fois de plus, on peut s'interroger sur les priorités de cette majorité.
Alors, c'était trois exemples, hein, mais on m'a demandé de savoir si des fois, il y avait des trucs bien quand même qui passaient dans ces commissions. Est-ce qu'il y a des subventions là, que vous releveriez comme étant... un bon investissement?
Oui, bien sûr, il y a des choses bien qui se font. J'essaye d'en parler quand même aussi de temps en temps. Mais bon, il y a des dispositifs qui roulent, entre guillemets. Hein. C'est le cas, par exemple, de l'aménagement d'un certain nombre de pistes cyclables au travers de la région pour pouvoir se déplacer en vélo, par exemple, sur la Via Rhôna. Donc, il y a des choses intéressantes qui se font dans ce cadre-là. Il y a quelques rénovations de refuges en montagne qui sont financées par la région, par exemple. Voilà, donc des exemples d'aménagement, de dispositifs qui vont dans le bon sens. Heureusement, il y en a. Et d'ailleurs, on n'a aucun souci pour voter pour. On n'est pas du tout dans une opposition de principe. Et il y a plein de choses sur lesquelles on émet des votes favorables.
On passe à cette reconvention avec la Chambre régionale d'agriculture, hein, c'est ça ?
C'est ça, effectivement. Hein, c'est la
c'est
convention
quelque chose qui se renouvelle
qui se renouvelle tous les ans. Donc là, il s'agit de la convention pour 2019 avec la Chambre régionale d'agriculture et donc par ricochet avec les chambres départementales d'agriculture. Donc c'est évidemment toujours un sujet que je regarde avec beaucoup d'attention. Et là, je suis intervenue lors de la commission agriculture pour faire remarquer quand même qu'il n'y avait pas un seul objectif sur les questions d'environnement ou de santé dans la stratégie ni de la région ni dans celle de la Chambre régionale d'agriculture. On parle beaucoup d'exportation, on parle beaucoup de biotech, on parle très peu de foncier. Et les seules fois où on parle d'agriculture biologique, ce n'est pas sur des questions de santé ou d'environnement, c'est uniquement pour créer de la valeur ajoutée. Donc on est dans un vocabulaire extrêmement économique, on parle de compétitivité, de débouchés, de réduction des charges. Mais du coup, tout l'aspect qui a fait l'esprit et la philosophie de l'agriculture biologique, c'est-à-dire aussi dans sa dimension paysanne, dans sa dimension de rémunération décente pour les paysans, de vente directe et d'attention justement aux écosystèmes et à la santé à la fois des paysans et des consommateurs, tout cet aspect-là a disparu de cette convention avec la Chambre d'agriculture. Et c'est bien dommage puisque du coup ça réduit la bio à une filière purement économique de fait ça dénature en réalité, c'est le cas de le dire, tout l'esprit de cette agriculture paysanne et biologique. Donc je l'ai fait remarquer parce qu'on a eu tout un débat pendant cette commission agriculture sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'agribashing, c'est-à-dire ce sentiment d'injustice des agriculteurs de se retrouver mis au banc des accusés sur tout un tas de sujets, notamment sur les questions justement d'environnement et de santé publique. Et donc j'ai fait remarquer qu'une des manières de combattre l'agribashing, c'était peut-être aussi d'envoyer de temps en temps des signaux et que cette convention aurait été l'occasion de le faire et que c'était bien dommage de ne pas l'avoir saisi.
Et l'autre chose qui est bien dommage, c'est qu'on l'a vu encore cet été, il y a quand même une problématique qui devient de plus en plus prégnante sur la question de l'eau.
Oui,
sur la question de l'irrigation, notamment pour parler que de l'agriculture, hein, et encore, il ne faut pas focaliser sur eux particulièrement parce qu'ils sont consommateurs d'eau, mais il y a tout ça qui va derrière, au-delà de la bio, hein, tout le monde est en train d'être concerné par ces sécheresses.
Bien sûr, et je crois que entre les épisodes de sécheresse et les épisodes de grêle, les agriculteurs, les viticulteurs, les arboriculteurs sont... font partie maintenant des premières victimes de cette multiplication et de cette intensification des aléas climatiques extrêmes. Même la vigne est touchée aujourd'hui, ce qui jusqu'ici était beaucoup moins le cas par les épisodes de sécheresse. Et donc il y a une prise de conscience qui est de plus en plus importante et de manière assez dramatique pour beaucoup d'agriculteurs. Pour citer un dernier exemple de cette commission permanente, on a beau avoir beaucoup de discussions à la région sur ces questions de la ressource en eau, du risque de conflit d'usage, on continue à voter de l'installation de canons à neige dans les stations de ski, de retenue d'altitude. Destinés à stocker l'eau en fait pour les utiliser pendant la saison de ski pour produire cette neige artificielle. Et puis là par exemple dans cette commission permanente on a eu le vote d'un financement pour 300 000 euros, ce qui est quand même pas rien comme somme, pour une extension de golf près de Rouen. Et le plus cynique peut-être dans ce rapport, c'est que cette subvention à un golf passe dans un dispositif destiné au sport de pleine nature qui permette de découvrir la biodiversité et d'être en harmonie avec justement la nature environnante et d'accompagner les sports à faible impact. Alors certes, c'est un golf qui est présenté comme utilisant deux fois moins de produits phytosanitaires avec de la fauche tardive et qui est qualifié de golf éco-durable. Pour autant, ça ne suffira pas à masquer la réalité de l'entretien d'un golf en matière d'eau, de la surface de terre arable que cela prend sur ce qui pourrait être de la culture vivrière. C'est ce type d'aberration qui passe de moins en moins bien au fur et à mesure que dérèglement climatique et extinction de la biodiversité continuent à s'avancer.
Comment on peut comprendre ce type de convention du point de vue de la Chambre régionale d'agriculture, mais aussi des chambres départementales? Est-ce que ça va être plus de pression sur les agriculteurs pour plus de production, pour plus d'exportation, etc.? C'est ça qui va être insufflé, ou est-ce qu'on peut imaginer quand même que ces chambres étant localement en connaissance de leur territoire, enfin, on va parler juste de la Drôme par exemple, on sait qu'on consomme 15% d'eau de plus que le territoire n'en possède, la Chambre d'agriculture le sait, les agriculteurs le savent, il y a toute une réflexion amont-aval, une logique, le syndicat mixte de la rivière Drôme, donc tout ça est très très contrôlé et très finement. Donc, ils ne peuvent pas répondre à ce type de convention. Le territoire ne peut pas vraiment.
Il ne faut pas diaboliser les chambres départementales d'agriculture. Y a des gens très bien dans ces chambres et qui font très bien leur boulot. Et il y a tout un travail d'accompagnement, de suivi, de mise en relation sur les questions d'installation et de transmission d'un certain nombre d'exploitations agricoles qui sont assurées par la chambre. Et c'est très bien. Là, la difficulté qu'on a, à la fois d'abord le fait que il y a eu un transfert de compétences et donc de fonds massifs vers ces chambres départementales, alors que beaucoup de tâches étaient jusqu'ici assurées par des acteurs historiques des réseaux justement paysans et de la bio, comme l'Ardéar, comme le comité d'action juridique, comme Terre de Liens, voilà, tous ces acteurs-là qui, dès la première année du mandat, ont vu leurs subventions rabotées de 20 jusqu'à 100% pour certaines structures qui ont dû licencier, voire mettre la clé sur la porte pour certaines. Donc ça, c'est un premier problème de diversité, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'avant, on avait une diversité d'acteurs et là, on a de plus en plus un guichet unique que sont les chambres départementales d'agriculture et que ces chambres départementales d'agriculture, comme aux élections professionnelles, la FNSEA et ses antennes départementales sont majoritaires, elles défendent une vision qui est une vision qui est quand même très imprégnée de cette logique économique de niche. Et la logique économique de niche, notamment sur la question de la bio, ce qu'elle entraîne, c'est que si c'est intéressant économiquement de la production de bio sous serre chauffée ou de manière intensive ou avec des conditions de travail qui ne sont pas forcément les meilleures du monde, et on peut avoir de la bio destinée à l'export, tout ça étant des aberrations si on considère les choses d'un point de vue social, environnemental, etc. Donc c'est un peu ça la difficulté qu'on a. Après, bien entendu que sur la question de l'usage de l'eau, il y a déjà beaucoup de choses qui sont mises en place. Il y a beaucoup de lieux, justement, de concertation entre les différents acteurs, au niveau notamment des bassins versants, au niveau des comités de rivière, etc. Mais pour autant, pour l'instant, on a du mal à voir la manière, justement, dont ça se traduit dans les décisions qui sont prises au niveau de la région. En dépit du bon sens et en dépit de l'impératif là, urgent d'économie justement de l'eau. Et donc, à un moment donné, il va falloir mettre des priorités, il va falloir mettre des interdictions et financer un golfe en pleine période de sécheresse, à un moment où dans la région, on a des villages qui sont ravitaillés par camions-citernes, où on a des agriculteurs qui ne peuvent plus justement produire comme il le faudrait. Et bien, la priorité, ce n'est pas de financer des golfs, je suis désolée, la priorité, ce n'est pas de financer des canons à neige, la priorité, c'est de financer de quoi boire, de quoi s'alimenter et les usages quotidiens qui découlent de cette ressource en eau.
Voir l'agriculture, s'il y en a encore. Hein. Enfin bon, moi je ne suis pas contre pour autant.
Bon, bien sûr.
Bah oui. Parlons de tout autre chose. Tout ça est très très lié. Le SRADET, alors ce terme un peu barbare, hein, est en pleine enquête.
Ouais, tout à fait. Alors le SRADET,
effectivement, publique, du coup, hein.
Ouais, tout à fait. Alors le SRADET, bon, c'est encore un acronyme un peu barbare.
On aime ça.
Mais c'est un schéma régional qui est très important puisque c'est lui qui fixe les grandes lignes directrices à la fois de l'aménagement du territoire, de ce qui est encore appelé développement durable, donc toutes les questions d'environnement et d'égalité territoriale. Donc c'est évidemment très important. Donc il y a eu une première mouture proposée par la majorité régionale à laquelle nous, on a apporter, enfin, ou tenter d'apporter un certain nombre d'amendements qui n'ont pas été retenus, et avec une inquiétude qu'on avait soulevée du manque de précision, en fait. Donc, il y avait des grandes intentions, dont certaines étaient plutôt louables, mais très peu de visibilité sur le caractère prescriptif et sur les moyens mis en œuvre pour les atteindre. C'est de fait exactement l'avis aussi de l'autorité environnementale qui a émis un avis sur ce SRADET très mitigé justement sur voilà, le fait que une fois de plus, il y avait des grandes déclarations d'intention, mais pas grand-chose de précis en face. Et donc là, il y a maintenant, on est dans la phase de concertation publique, alors qui est très rapide. On a demandé qu'elle soit allongée, mais ça a été rejeté. Donc elle se termine le 4 octobre. Ça a duré à peine plus d'un mois depuis la rentrée, qui est une période chargée pour tout le monde. Donc il est encore possible quand même de contribuer jusqu'à 4 octobre, soit dans les mairies, soit sur Internet, qu'on appelle sur le registre dématérialisé. Et donc, nous, on a mis en ligne sur notre site l'avis de notre groupe RCES, notamment sur le fait qu'il fallait que ce schéma soit davantage prescriptif, qu'on le muscle sur la question de la réduction des déchets, qu'on ait davantage de cohérence entre les objectifs affichés et la question du financement par la région de projets routiers, autoroutiers et autres grands projets inutiles. Et puis aussi sur la question de l'artificialisation des sols, hein, qui est un sujet absolument crucial et sur lequel, là aussi, le SRADET est aujourd'hui, selon nous, insuffisant. Donc il y a aussi la possibilité, et comme on y a invité les habitants, il y a la possibilité voilà, de reprendre aussi des éléments de notre avis pour les poster sur le site de la concertation publique pour essayer de faire en sorte effectivement d'orienter les choix de la région vers un SRADET un petit peu plus musclé, ce qui ne sera pas du luxe au vu des enjeux qui nous attendent sur toutes ces questions.
Alors c'est un schéma, j'allais dire, qui vient imposer une nouvelle réglementation, ou c'est quelque chose à suivre?
Alors, c'est un schéma, en fait, qui fixe des grandes lignes pour toutes ces questions d'aménagement du territoire, etc. Mais justement, plus il est large et flou, moins il s'applique. Donc tout l'objectif, c'est de fixer des lignes suffisamment précises pour qu'il soit réellement prescriptif et pas juste dans la grande déclaration d'intention. Parce que si on prend
l'exemple des autoroutes, le SRADET pourrait dire il est refusé de refaire des nouvelles routes, on va plutôt privilégier l'élargissement éventuellement, ou je sais pas, ou au contraire même l'interdire. C'est ce genre de choses-là qu'on attend.
Oui, tout à fait.
Qu'on pourrait attendre.
Oui, tout à fait. C'est exactement ce qu'on pourrait attendre, sachant que le SRADET, il s'impose d'abord et avant tout à la région elle-même, hein, puisque c'est quand même le schéma régional qu'elle pilote. Et que c'est bien là toute la difficulté, puisqu'on continue à avoir un écart assez important justement entre ces grandes déclarations d'intention et la manière dont la région continue à afficher sa volonté de financer de nouvelles autoroutes, de financer le Center Park Sarrois-Bon, de financer le Lyon-Turin qui passe sur des terres agricoles, etc. etc.
Donc il n'y a pas à la région d'organisme. Tout à l'heure, on parlait de l'eau sur la partie agricole. Il pourrait y avoir un pôle de techniciens sur ces problématiques-là, comme un pôle de techniciens sur la biodiversité, comme un pôle de techniciens sur la partie agricole sur lequel on pourrait s'appuyer avec des statistiques, etc. Comment est-ce que vous fonctionnez? Est-ce que c'est juste militant comme positionnement, là, ce que vous avancez, parce que bon, c'est...
Non, il y a de fait, il y a de nombreux travaux, justement, de techniciens qui existent, y compris dans les services de la région, avec des gens qui font vraiment leur travail dans les services et dans les directions. Et puis à l'extérieur de la région aussi, il y a le CESER qui donne un avis de manière régulière, donc le Conseil économique et social et désormais également environnemental, qui donne un avis justement sur ces grands schémas, avec le travail aussi d'un certain nombre d'associations sont entourées d'experts comme France Nature Environnement, la FRAPNA ici et d'autres. Donc des éléments en fait statistiques, notamment sur la question par exemple de l'artificialisation des sols, on en a. La difficulté, c'est toujours la même, c'est qu'à un moment donné, toute cette expertise, elle passe par le filtre du politique et de l'idéologique. Et donc, les décisions, au final, qui sont prises, sont pas forcément toujours en cohérence avec les avis d'experts. Parce que, parce qu'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, d'intérêts économiques, d'intérêts parfois aussi clientélistes, hein, électoralistes. Et donc, au final, les décisions politiques ne suivent pas toujours, c'est loin d'être le cas, même les avis des scientifiques. On le voit à tous les niveaux, hein, puisque au niveau...
Mais la question se pose quand même, vraiment, du coup, là, à l'échelle de la région, qui sont les lobbyistes importants, enfin, qui peut s'en mettre plein les poches? C'est toujours les questions qu'on se pose, où est le complot? En fait, dans le fond, pour le Center Parcs ou pour l'autoroute, enfin, c'est les mêmes qu'au national. Quel intérêt à la région là-dedans? Est-ce que c'est quelque chose qui réellement rapporte? On ne comprend pas comment ce modèle peut continuer à se maintenir alors que ici, on s'assèche. La population est quand même dans une situation qui devient problématique à l'échelle nationale, dans la région aussi. Ça paraît complètement fou.
Il y a plusieurs choses, je pense. D'abord, honnêtement, pour le coup, il n'y a pas de complot. C'est-à-dire que Laurent Wauquiez est en train de mettre en œuvre absolument tout ce qu'il avait promis pendant la campagne des régionales. Quand on regarde les déclarations faites devant les agriculteurs et la FNSEA ou la lettre envoyée à la Fédération régionale de la chasse, par exemple, finalement, il est exactement en train d'appliquer son programme. Ça, c'est la première chose que je voulais dire. Après, l'autre chose, c'est qu'il y a encore, en plus des intérêts économiques, un positionnement qui est un positionnement politique, mais presque général face à la vie, qui est aussi une sorte de foi en la technologie, une foi dans le progrès humain et dans le fait qu'on va trouver des techniques qui vont nous permettre justement de
tout inverser d'un coup.
De consommer moins d'énergie, de consommer moins d'eau, de trouver peut-être de nouvelles manières de produire de l'énergie, de la stocker. Et du coup, cette foi dans la technologie, elle conduit en fait à ne pas prendre les bonnes décisions qui s'imposent non pas demain ou dans un futur hypothétique, mais dès aujourd'hui.
Mais donc, il s'imagine qu'il y a autant de scientifiques pour dénoncer ce qui est en train de se passer que de scientifiques qui bossent à trouver le produit miracle, quoi.
Mais en fait,
parce qu'ils ne changent pas le modèle. Donc, du coup, ils ne sont pas non plus en train de financer la recherche du produit miracle.
Ils ne sont pas en train de financer la recherche sur le produit miracle, encore qu'on a, on a des subventions qui vont aussi vers les questions de recherche, notamment, il y a un gros volet qui est développé par la région en ce moment, c'est la question de l'hydrogène. Mais avec toujours un côté fuite en avant, c'est-à-dire que l'hydrogène, par exemple, on sait aujourd'hui que la production d'hydrogène à partir d'énergies renouvelables, c'est peanuts dans la production d'hydrogène, et que c'est pas vrai qu'on va tout d'un coup faire circuler tous les véhicules de la région à base d'hydrogène. Donc il y a à la fois une forme d'aveuglement en fait sur ce que peut la technologie, une forme d'aveuglement aussi sur les contre-effets négatifs de certaines technologies. Qui finalement risque d'apporter autant de mal que de solutions. Et puis il y a une vision qui est présentée comme une vision responsable de court terme et qu'on peut entendre aussi, mais là la difficulté c'est qu'il y a que c'est celle-là qui prime, qui est de dire nous on a la responsabilité de faire tourner économiquement des stations de ski qui représentent des emplois et de l'activité en montagne, de garantir aux agriculteurs qui sont aujourd'hui déjà installés de pouvoir continuer leur activité telle qu'ils la pratiquent aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens d'en changer, etc. et qu'ils ont déjà suffisamment de difficultés comme ça. Et du coup, ce discours-là qui est tout à fait légitime et entendable parce que de fait, il y a effectivement des... les choses ne se font pas d'un claquement de doigts. Au lieu de pousser à avoir une réflexion justement de planification, d'accompagnement dans un temps plus long, mais de commencer dès maintenant à faire des bifurcations et des transitions, elle conduit à ne rien faire et à ne rien changer. Et c'est là où le bât blesse, parce que plus le temps passe, plus on attend et plus en réalité, les changements ils vont être brutaux et en premier lieu pour les stations de ski et pour les agriculteurs. Parce que qu'on le veuille ou non, de la neige, il y en a de moins en moins. Du froid pour faire tourner les canons, il y en a de moins en moins. De l'énergie pour les faire tourner, il y en aura de moins en moins et de plus en plus cher. Et idem pour les agriculteurs qui vont être de plus en plus confrontés à ces questions de sécheresse, de grêle, etc. Donc ne pas prendre le problème à la racine et être uniquement sur des aides exceptionnelles ou des palliatifs, pour moi, est totalement insuffisant et totalement indigent par rapport à ce que devrait être le rôle de la collectivité territoriale et des politiques publiques, qui est justement d'anticiper pour le bien justement de tous ces acteurs qui sinon vont se retrouver un jour à ne plus pouvoir assurer leur activité et la chute sera beaucoup plus violente que si elle avait été anticipée dès maintenant en commençant effectivement à réfléchir un peu plus sérieusement à l'adaptation à ces nouvelles données climatiques et environnementales.
Un côté foi aveugle. Alors, si on s'appuie sur votre ouvrage, ils sont en train de couler en beauté ou de flotter sans grâce?
Bah là, pour le coup, ils sont vraiment plutôt en train de flotter sans grâce. Parce que c'est une manière de se maintenir à flot, mais en buvant la tasse à chaque vague, jusqu'au moment où effectivement ça
la
va couler. Quoi.
Ouais. Alors du coup, c'est l'occasion de planter des arbres.
Ouais.
L'australisme a implanté une quantité hallucinante.
Oui, il y a de plus en plus de pays ou de communes. C'est le cas à Grenoble aussi, plus proche de chez nous, qui a lancé un vaste plan de 5000 arbres plantés en ville d'ici 2020. Et donc nous, on a souhaité se saisir de ça parce que, en fait, le règlement intérieur de la région permet à tous les groupes politiques, y compris d'opposition, une fois dans le mandat, de proposer au vote une délibération. Et donc, on est le premier groupe à s'emparer de cette possibilité. Et donc, on a planché depuis plusieurs mois sur une délibération. On a réfléchi à plusieurs thèmes possibles. On a rencontré pas mal d'associations, de collectifs, d'experts, etc. Et donc, on va déposer cette délibération qui sera soumise au vote de la session plénière du mois de décembre et qui va être présentée aux prochaines commissions thématiques là en octobre. Et pour résumer, cette délibération, c'est on veut des arbres. On veut des arbres parce qu'un arbre, ça stocke du gaz à effet de serre, du carbone. Un arbre, ça élimine un certain nombre de particules polluantes comprises dans l'air qu'on respire. Un arbre, ça procure de la fraîcheur pendant les périodes de canicule. Un arbre, ça peut donner de quoi nourrir, hein, si c'est un arbre fruitier ou si c'est couplé à de l'agroforesterie. Un arbre, ça peut être aussi un paravent ou un paravalanche lorsqu'il est planté en haie dans nos champs. Donc voilà, il y a énormément de bienfaits qui sont des bienfaits qui sont de moins en moins du luxe, là aussi, au vu de l'état du monde. Et ça nous a semblé, en plus, être un sujet suffisamment fédérateur pour avoir une petite chance de passer à l'Assemblée plénière du mois de décembre. Donc on l'a construit sous la forme de la structuration d'une filière de l'arbre hors forêt, donc arbre des villes, arbre des champs, puisqu'il existe déjà des choses sur la forêt, et que cette partie-là, par contre, est souvent oubliée des politiques publiques.
Il aura un logo, l'arbre?
Alors, on n'a pas proposé, d'investir dans un logo de peur qu'on se retrouve avec une plaque sur chaque arbre planté.
Ben oui.
Mais du coup, l'idée, c'est vraiment que ça aille en fait de l'aide aux pépiniéristes locaux jusqu'à l'entretien.
Ce serait pas une filière vraiment d'employés régionaux.
Voilà. Non. Okay. Là, c'est vraiment d'aider en fait toute la filière. Alors, on parle de filière, nous, c'est pas notre vocabulaire, mais c'est celui de la région. Il faut quand même que, de temps en temps, on accepte de se plier aux règles du jeu institutionnel. Mais là, c'est vraiment l'idée d'aller du pépiniériste local jusqu'à l'entretien par des employés des espaces verts municipaux. municipaux, parce que l'arbre en ville, il pose aussi tout un tas de questions et c'est souvent un frein pour planter des arbres en ville. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'aider tout l'ensemble de la filière dans les zones urbaines comme dans les zones rurales. Et donc, pour nous aider dans le fait de pousser cette délibération, qui est plutôt bien partie, hein, parce qu'on a de très bons échanges avec les autres groupes, y compris avec les deux groupes centristes à la région, du MoDem et de l'UDI, qui sont dans la majorité régionale et qui, voilà, pour l'instant, ont une attitude très positive de soutien vis-à-vis de notre initiative. Donc, il y a une vraie chance que ça passe. Et donc, pour soutenir notre initiative et encourager l'ensemble des élus, y compris ceux qui ne sont pas même du même camp politique que nous, à la voter en décembre, on a lancé une pétition sur change.org qui s'appelle « On veut des arbres », qui s'adresse à Laurent Wauquiez et à l'ensemble des élus du Conseil régional. Et donc, on vous invite à signer pour voilà, montrer qu'on n'est pas juste 8 élus dans la région à souhaiter qu'il y ait une politique régionale en matière de planter d'arbres, mais que c'est aussi quelque chose qui est demandé par les citoyens.
Et puis il y a eu toute cette phase de consultation, vous le rappeliez, de différentes associations. Alors c'est intéressant de voir les interrelations potentielles justement entre plein d'associations, plein d'acteurs différents autour d'un arbre. Vous avez cité un certain nombre d'exemples. Quel va être le côté prescriptif de cette délibération ? Est-ce que, parce qu'il va falloir après, j'allais dire,
mettre
prendre
en
chacune des mairies une par une, faut planter maintenant, chers agriculteurs, remettez une haie, enfin bon voilà.
Alors là en fait, dans le cadre de ce qu'on appelle donc cette niche délibérative, elle est proposée au vote en décembre. Si elle est adoptée par la région en décembre, l'exécutif a ensuite 6 mois pour proposer au vote des dispositifs concrets de mise en œuvre. Donc ensuite, on a 6 mois pour qu'il y ait un travail qui soit fait avec les services, avec les collectivités locales, avec des structures associatives, avec par exemple la mission Haies Auvergne qui, et son animatrice Sylvie Monnier qui sont voilà, vraiment des lieux et des personnes ressources et référentes avec lesquelles on a beaucoup travaillé pour mettre en œuvre ça de manière très concrète, qui est une chose que la région sait très bien faire. Hein. On l'a fait il n'y a pas très longtemps pour le plan cheval, par exemple, qui visait là aussi à réunir tous les dispositifs existants de manière beaucoup plus coordonnée et avec davantage d'aide. Donc là, il est tout à fait possible de réunir tout ce qui se fait déjà, parce qu'il y a déjà énormément de choses qui se font, mais avec davantage de coordination et davantage de soutien de la part de la région.
Et on va terminer sur la région avec deux choses plus locales. Cette question de la ligne des Alpes. Alors, on va en parler un petit peu de manière un peu régulière sur cette antenne. Hein. C'est le Grenoble Veynes, on va dire, qui est le plus menacé sur cette étoile de Veynes.
Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que c'est un sujet récurrent hein, depuis le début du mandat.
Ah,
c'est le
bon
feuilleton de l'étoile de Veynes et de la ligne des Alpes.
On faisait l'historique, ça fait quasi 100 ans que de toute façon, c'est menacé. Alors,
ah oui, c'est, voilà. C'est de l'ordre des combats permanents, ouais. Effectivement. Et c'est évidemment un combat qu'on suit avec beaucoup d'attention et auquel on participe le plus possible. Dans ce qu'on peut faire au niveau de la région. Et donc là, les derniers rebondissements sont qu'il y a eu un comité de pilotage le 26 septembre, hein, dont on attendait beaucoup, puisque l'ensemble des partenaires étaient autour de la table, et dont il est sorti en fait pas grand-chose, puisque l'État ne tranche toujours pas, alors qu'on a maintenant quasiment tous les financements pour réaliser les travaux qui deviennent absolument urgents sur cette ligne, si on veut éviter sa fermeture. Travaux qui doivent être réalisés avant la fin de l'année 2020. Ça concerne aussi la vallée de la Drôme, puisque c'est ce qui conditionne le maintien du train de nuit Paris-Briançon pendant la phase des travaux qui vont avoir lieu sur notre ligne de la vallée de la Drôme, afin que ce train de nuit puisse passer par Grenoble, justement, et poursuivre ensuite vers Veynes, Gap et Briançon. Faute de quoi, une des autres options, c'est d'aller directement sur l'Italie et de revenir ensuite en arrière sur Briançon. chansons par quart. Donc je vous laisse imaginer l'épopée ferroviaire et routière que cela représenterait. Donc ça nous concerne directement. Il y a besoin de 18 millions d'euros pour réaliser ces travaux. L'État s'est engagé à financer à hauteur de 10 millions, la région à hauteur de 6 millions. Ensuite, il y a les collectivités locales, métropole, Grenoble, etc., qui se sont engagées aussi à mettre au bout. Donc maintenant, il faut trancher sur les différentes options, il faut trancher surtout sur le fait de lancer ces travaux pour qu'ils puissent être réalisés à temps. Et donc, pour aider l'État à faire son choix, il y a un appel du collectif de l'Étoile de Veynes à venir très nombreux à la prochaine Assemblée Générale qui aura lieu le 5 octobre. Et donc, voilà, ça fait partie...
À Veynes.
Ça fait partie des rendez-vous à ne pas rater ou à diffuser. Et en tout cas, des initiatives à soutenir très fortement parce que ça impacte un nombre important d'habitants de la vallée, de cette ligne des Alpes, de l'ensemble de l'Étoile de Veynes, avec tout ce que ça induit aussi en termes de pollution, si on doit reporter une fois de plus du rail vers la route, que ce soit en voiture ou en car.
Surtout sur ces zones-là, 6 millions d'euros, l'État 10 millions, la région a finalement quand même un bon poids là-dedans. Est-ce qu'elle tape du poing sur la table ?
C'est difficile à savoir.
Au-delà de la subvention, quoi, je veux dire.
C'est difficile à savoir. Elle est en tout cas autour de la table. Elle participe financièrement.
Parce que ça pourrait être quelque chose qui serait défendu fortement. Laurent Wauquiez pourrait monter, faire du lobbying en permanence.
Après, la difficulté, c'est que dans ces jeux à plusieurs acteurs, il y a toujours un espèce de jeu à reporter la faute sur l'autre. Et c'est aussi des manières de temporiser avant de débloquer des budgets. Donc on a eu pendant très longtemps cette espèce de renvoi de balle entre l'État et la région où chacun attendait que l'autre s'engage pour s'engager, pour fixer un montant, etc. Et c'est vrai que le fait d'avoir réussi à peu près à dépasser cette phase-là, avoir obtenu des montants et qu'il se passe toujours rien est particulièrement frustrant.
C'est mauvais signe ?
Non, c'est pas forcément mauvais signe. Moi, j'ai quand même le sentiment que les choses avancent, et notamment grâce au travail vraiment militant du collectif de l'Étoile de Veynes. Mais le temps passe, on a cette espèce de couperet là, de décembre 2020. Et donc là, maintenant, il faut vraiment que les choses se décident dans les jours qui viennent.
Elle est dangereuse ? Elle devient vraiment dangereuse, en fait, cette ligne ?
Bon, il y a visiblement des travaux qui sont rendus nécessaires. Après, on a eu des épisodes un peu curieux, par exemple, de trains qui étaient ralentis sur le parcours raison officielle justement de sécurité et il y a eu des démentis d'autres sons de cloche qui disaient que en fait les trains auraient tout à fait pu circuler normalement avec les horaires annoncés, ce qui aurait provoqué moins de dysfonctionnements notamment du côté des usagers. Donc moi je suis pas experte, je suis pas allée examiner les rails et quand bien même je l'aurais fait, j'aurais pas été capable de rendre un avis, mais visiblement les choses sont controversée sur certains aspects. Après, sur le fait qu'il y ait besoin de travaux, je crois que tout le monde est d'accord. Et sur l'urgence de ces travaux également. Mmh. Donc une fois de plus, là maintenant, il faut vraiment que les choses se tranchent très rapidement.
Le maire de Soues fait partie de ces quelques maires de France à avoir pris des arrêtés très très forts et très symboliques, notamment celui contre les pesticides. Et ça, sur l'ensemble de la commune, c'est pas uniquement les employés communaux qui arrêtent de mettre du glyphosate, c'est tout le monde.
Oui, tout à fait.
Le glyphosate, pour ne citer que lui.
Oui, alors, ce n'est pas tout à fait qu'ils arrêtent, c'est qu'ils arrêtent à 150 mètres des lieux dits sensibles.
Ouais.
Voilà. Donc, on est loin d'une interdiction totale.
C'est pour ça qu'il faut remettre des haies partout, c'est-à-dire des 150 mètres.
Voilà, par exemple. Donc, effectivement, c'est le conseil municipal de Soues qui a pris cette décision. Il y a une quarantaine de maires et d'équipes municipales en France qui ont pris des arrêtés similaires fixant à 150 mètres cette distance, on va dire, de précaution, qui sont des arrêtés de désobéissance, puisqu'aujourd'hui, la loi est beaucoup, beaucoup plus conciliante. Et donc, ces maires sont aujourd'hui en but à des manifestations de protestation d'un certain nombre d'agriculteurs, pas tous, mais certains, ça a été le cas à Soues, où il y a eu une manifestation d'agriculteurs dits traditionnels qui est venue protester contre cette décision de la mairie, et puis même de recours en justice, puisque là, Daniel Gilles, donc le maire de Soues, est convoqué devant le tribunal administratif de Grenoble, et donc en procès contre cet arrêté. Et une fois de plus, comme beaucoup de procès en ce moment, on assiste à un espèce de renversement un peu absurde, où finalement ceux qui se retrouvent devant les tribunaux, c'est ceux qui prennent des mesures pour tenter de protéger à la fois la population et les écosystèmes, et que ceux dont on a des preuves aujourd'hui qu'ils les détruisent par la commercialisation d'un certain nombre de produits comme le glyphosate, continuent à être tranquille et à ne pas être inquiété, même si là aussi il y a des procès qui commencent à se multiplier, notamment aux États-Unis contre Monsanto par exemple.
Mais même en France, il y a quand même des procès justement sur la question écologique qui sont en train d'être justement traités par la prise de
jugement. Tout à fait, c'est le cas notamment du plus connu d'entre eux, celui qui a été initié par cet appel, cette pétition, l'affaire du siècle, qui est en cours contre l'État pour mise en danger de la vie d'autrui.
On voyait des décrocheurs de tableaux, pareil.
Les décrocheurs de portraits présidentiels. Alors là, pour le coup, c'est eux qui se retrouvent en procès pour avoir décroché le portrait présidentiel.
Oui, mais justement, ils sont relaxés parce qu'il y a une urgence. Ça a été pris.
Ouais, malheureusement, pas tous. Il y en a beaucoup qui se sont retrouvés avec des amendes, notamment. Mais c'est vrai que là, il y a eu une décision très intéressante du tribunal de Lyon.
Ouais, c'est ça.
Faut lire le jugement du tribunal. Il est extrêmement intéressant puisqu'il a donc fait relax aux deux militants qui étaient poursuivis pour avoir décroché donc le portrait d'Emmanuel Macron dans des mairies afin de dénoncer le vide de son action politique en matière de climat. Et la relax, elle est prononcée sur des motifs hyper intéressants où le juge du tribunal de Lyon dit concrètement que l'inquiétude sur un domaine aussi vital est légitime face à l'inaction et que la démocratie ne peut pas s'en tenir à la question des élections dans la mesure où il y a ce sentiment de rupture de dialogue entre le président de la République et le peuple sur ces questions-là notamment, il est finalement du ressort des citoyens d'inventer d'autres modes d'action. Donc voilà, c'est pas les mots exacts, je l'ai pas sous les yeux, mais je vous invite à le lire, il se trouve très facilement sur Internet et il est assez détonnant et décoiffant et très intéressant parce que pour le coup, il pose un jalon politique tout à fait...
Le retour de la désobéissance civile.
Tout à fait
civile.
Bienvenu.
Ouais. On parle un peu de Rojava, c'était donc les vacances d'été de Corinne Morel-Darleux.
donc je suis effectivement retournée au Rojava au mois de juillet. En Syrie du Nord. J'y étais allée donc 15 mois auparavant, on en avait parlé je crois sur les ondes de Erdiwa. Et donc là j'y suis retournée pour tout simplement assurer un peu de suivi de la situation là-bas dont on a peu d'écho direct puisque finalement assez peu de personnes s'y rendent pour des raisons évidentes. Par ailleurs, c'est toujours aussi compliqué de se rendre dans cette zone-là. Il faut passer par l'Irak, franchir la frontière entre l'Irak et la Syrie qui n'est pas toujours ouverte et ensuite se déplacer dans un territoire qui était notamment à ce moment-là directement menacé par des déclarations très guerrières de la Turquie qui menaçait d'envahir précisément la zone où on est allé, qui est donc au nord de la Syrie, tout au long de la frontière avec la Turquie. Et donc je m'y suis rendue avec la fondation France Liberté Daniel Mitterrand. On était une petite délégation de trois personnes avec le directeur de la fondation, Jérémy Chaumette, et puis avec une administratrice qui est également kurde, irakienne. Donc c'était très intéressant aussi d'avoir son regard et on a refait un peu le même trajet que celui que j'avais fait il y a 15 mois en partie, ce qui a permis de retourner dans certains lieux et de voir aussi l'évolution de la situation en un peu plus d'un an. Ça a été le cas par exemple au village de femmes de Djinwar, à la commune internationaliste avec le projet de reforestation Make Rojava Green Again. Ça a été le cas aussi dans un orphelinat à Kobané où je m'étais rendue et c'était à la fois très, très émouvant de retourner dans ces lieux-là parce que en fait les trois, quand j'y étais allée la première fois, étaient en construction Et j'ai retrouvé les trois là, habités, vivants, fourmillants d'activité, avec en plus un signal envoyé quand même aux gens sur place, qui est très différent et qui induit un lien humain qui est très différent, parce que quand vous passez une fois, eux voient beaucoup passer des gens qui viennent seulement une fois et qui reviennent jamais, dont ils n'entendent plus jamais parler. Et le fait de revenir une deuxième fois, c'est quelque chose qui, je crois, les touche beaucoup, en fait, et qui fait qu'on rentre dans une relation de confiance qui n'est pas la même que la première fois. Donc ça, c'était extrêmement intéressant. Et puis, contrairement à la première fois, on est allé cette fois un peu plus au sud, dans la région de Raqqa, qui était un territoire sur lequel on ne pouvait pas se rendre il y a 15 mois, puisque c'est un des derniers territoires qui a été libéré de Daesh, hein, où ont eu lieu les derniers combats, qui est encore extrêmement emprunt, en fait, de ces combats contre Daesh, puisque là, pour le coup, vous traversez encore des zones qui sont des zones totalement détruites, en ruine, avec des éclats de d'obus et des marques, vraiment des conflits qui sont encore extrêmement visibles. Et donc, dans cette région de Raqqa, on est allé visiter un camp de population réfugiée et déplacée, le camp d'Ain Issa. Moi, c'était la première fois que je me rendais dans un camp de réfugiés, et ça a été un baptême par le pire, hein, puisque de l'avis des personnes avec qui j'étais, qui elles sont habituées des camps de réfugiés, notamment du côté du Kurdistan irakien, et qui y travaillent et qui y mènent des actions, notamment à destination des enfants sur la gestion des stress post-traumatiques. De l'avis général, voilà, là, on est arrivé dans un camp qui est un camp particulièrement précaire, qui manque de tout, avec des tentes qui sont faites de bouts de tissu rafistolés, avec des eaux usées qui s'écoulent directement dans la terre, sans même qu'il y ait une rigole bétonnée, ce qui pose évidemment des problèmes de santé à l'intérieur du camp absolument désastreux, avec voilà, encore des pratiques de mariage forcé d'enfants au sein du camp, et de la criminalité, etc., etc. Enfin, des conditions vraiment absolument désastreuses au sein du camp, et très peu de moyens, en fait, de la communauté internationale. C'est ça qui est extrêmement choquant, c'est que même les Nations Unies ne sont pas présentes directement. Il y a, voilà, par exemple, pour l'UNICEF, c'est un partenaire local qui est là, mais qui distribue encore des rations alimentaires aux enfants, alors que c'est un camp qui existe depuis plusieurs années, et normalement ça fait partie des premières choses quand même sur les questions alimentaires qui sont réglées. Et les Nations Unies ne sont pas présentes parce que le régime syrien de Bachar el-Assad en fait exerce un chantage sur les ONG internationales et sur les Nations Unies, en disant en gros, voilà, si vous êtes enregistré à Damas, si vous souhaitez intervenir en Syrie, vous avez interdiction d'intervenir au Rojava. Donc, ce qui est une rupture du principe de neutralité de l'action humanitaire, qui est extrêmement choquant et qui, du coup, a des conséquences voilà, qui sont désastreuses, sachant que, évidemment, sur place, les autorités locales, qui manquent elles-mêmes de tout, ont le plus grand mal à mettre en place les moyens qu'il faudrait pour assurer un minimum de décence dans ces camps. Nous, quand on y est allé, on a été témoins aussi de scènes extrêmement choquantes, puisque le camp venait d'accueillir quelques enfants qui sont des orphelins de guerre, ce qu'on appelle les orphelins de Daesh, c'est-à-dire des enfants en fait qui ont été trouvés par les militaires. Qui, en arrivant dans un village qui était tenu par Daesh, ont retrouvé ces enfants qui étaient les seuls survivants, en fait. Tout le monde était mort ou avait fui. Il n'y avait plus que ces enfants qui survivaient là, on ne sait comment, et qui sont des enfants qui sont évidemment dans des états de traumatisme total, dont on ne connaît ni les parents, ni l'identité, ni parfois même l'origine, hein, puisque certains visiblement avaient des parents qui n'étaient pas syriens, probablement des renforts étrangers pour
des combattants de Daesh, ouais.
Voilà, et avec beaucoup de difficultés aussi à réintégrer des communautés. Ça pose plein de problèmes, notamment dans les communautés yézidis, Où tout le monde n'est pas d'accord pour obtenir ces rejetons de Daesh. Donc, c'est voilà, des orphelins.
Des enfants
qui sont,
de terroristes, ou, non, c'est ça l'histoire. Hein.
Donc, des orphelins qui sont, France, qui sont dans des situations inextricables et où, là encore, voilà, les autorités locales ont la plus grande difficulté du monde à savoir comment gérer ces situations. Donc, là, quand on y est allé, il y avait une grande tente qui leur avait été dédiée avec des volontaires du camp, donc des réfugiés eux-mêmes qui assuraient un minimum pour s'occuper de ces enfants, leur faire à manger, les vêtir, assurer les soins quotidiens. Voilà, c'est des situations extrêmement, extrêmement compliquées et qui sont franchement pas aidées non plus par la situation générale et ces menaces permanentes d'offensives turques qui, du coup, mobilisent aussi beaucoup d'énergie à préparer une potentielle défense des populations et à se préparer au combat. Et autant d'énergie et de moyens qui ne sont pas mis aussi sur les questions d'urgence, quoi.
En y allant à chaque fois, au-delà de partager cette expérience avec le peuple kurde, qui est en train de quand même développer une gestion politique qui, en plus, marie bien toutes les ethnies qui sont en présence et qui, d'habitude, se combattaient. Ça, c'est vraiment le fait qu'on peut relever. Vous y allez aussi, pourquoi ? Est-ce que ça permettrait, par le biais de cette émission, par exemple, ou d'autres, de continuer à alerter, de dire, scandaliser un peu les gens sur le fait que c'est pas possible qu'une aide internationale n'arrive pas ?
Il y a d'abord, effectivement, une sorte de devoir d'information, et c'est vrai que c'est plus facile d'informer et d'alerter sur un sujet quand on s'est rendu sur place et qu'on peut faire part d'observations directes, au-delà du fait que ces visites signifient beaucoup en fait pour les gens sur place, faut pas le sous-estimer, et c'est vraiment extrêmement fort en fait les retours qu'on a sur place sur cette question-là. Et puis après il y a aussi des choses beaucoup plus opérationnelles, c'est-à-dire que là l'objectif des 10 jours qu'on a passé sur place, c'était aussi de multiplier les rencontres à la fois avec les ONG internationales présentes, mais aussi avec les acteurs locaux de la société civile, pour évaluer en fait à la fois leurs besoins et les possibilités justement de coopération et de solidarité internationale. Donc on a fait le tour de beaucoup beaucoup d'acteurs locaux de manière très très variée, à la fois des acteurs qui travaillent sur tout le secteur de l'éducation non formelle, donc tout ce qui se passe en dehors des écoles à destination des gamins, mais aussi justement des orphelinats, des hôpitaux, des centres de soins, des coopératives paysannes qui ont beaucoup perdu dans toute la série d'incendies criminels qui ont ravagé le Rojava au début de l'été, le projet de reforestation Make Rojava Green Again. Donc voilà, tous les besoins. Et là, on va démarrer à partir du 7 octobre. On fait une première restitution à Paris avec la Fondation Daniel Mitterrand à destination de toutes les ONG, tout le secteur de l'aide et de l'humanitaire, mais aussi les collectivités françaises qui souhaiteraient en savoir plus d'abord sur la situation là-bas, sur les besoins, et qui éventuellement seraient prêtes à envisager justement des partenariats, des échanges, voilà, tout au long de l'année, avoir toute une série de rencontres pour voir ce que concrètement on peut mettre sur place, à la fois en matière de délégation française sur place, mais aussi, et je trouve ça très important, de délégation de Syrie du Nord en France, pour observer par exemple la manière dont on gère dans certaines localités les services publics, puisque là-bas, la collecte des déchets, la question des infrastructures d'eau, les questions même d'agriculture paysanne, en fait, tout est à reconstruire, tout est à apprendre, même pour certains, puisque cette région a été totalement délaissée depuis des décennies par le régime syrien. Elle était considérée comme une région qui ne servait qu'à produire des céréales, et donc il y avait très peu de présence par le biais des services publics, pas d'université, très peu d'éducation, plus d'agriculture diversifiée, vivrière. Il y a des pénuries incroyables en matière d'électricité courante, de circuits d'eau potable. Donc voilà, il y a énormément de choses à mettre en place. Et ce qui est revenu vraiment dans toutes les rencontres qu'on a faites, c'est le besoin justement d'acquérir des savoirs, des compétences sur toutes ces questions-là. Voilà, on va essayer de faire en sorte de favoriser ces échanges de compétences et de savoirs pour qu'un minimum de décence vitale puisse être mise en place dans ce pays.
Ça ne doit pas être évident de faire venir une délégation en France.
Bon. C'est là où il y a justement besoin aussi d'appui d'élus et d'institutionnels français pour lever les éventuels obstacles à des déplacements de Nord-Syriens
On est une commune là, du territoire, qu'est-ce qu'on fait
On peut adresser des lettres de soutien à ces acteurs, on peut se porter volontaire si une délégation se monte, on peut se porter volontaire pour organiser l'accueil sur place d'une délégation qui viendrait de Syrie du Nord.
Et puis on Est-ce que ça aurait aussi... un poids juridique, je veux dire, pour faire passer des visas
Il n'y a jamais rien de décisif sur ces questions-là. C'est toujours une question d'ambiance générale. Mais plus il y a de personnes qui se mobilisent et qui manifestent le fait qu'elles sont au courant, et plus on peut imaginer effectivement que les autorités en charge se laisseront convaincre. Et puis la dernière chose, c'est que qu'on soit collectivité ou simple citoyen, se tenir un peu informé de ce qui se passe et se tenir prêt à réagir en cas d'attaque par l'armée turque, même si l'imminence de l'attaque a été un peu levée ces dernières semaines. Ça reste une menace tout à fait réelle. Et si elle se déclenche, et le jour où elle se déclenchera, on aura besoin qu'il y ait le plus de voix possible qui s'élèvent pour qu'il y ait condamnation internationale et qu'on puisse, le cas échéant, amoindrir les impacts, on va dire.
Ainsi s'achève ce nouveau compte-rendu de mandat radiophonique avec Corinne Morel-Darleux. On va se retrouver donc au mois de décembre après ces délibes ou pas, non ?
Alors avant ça, puisqu'on a une autre session plénière là, qui a lieu les 17 et 18 octobre. Donc on pourra se refaire un petit point avant décembre.
Très bien. Et puis sinon, on vous retrouve un peu partout avec ce livre.
Oui.
Et puis d'autres invitations avec plein d'acteurs qu'on a parfois cités dans ces émissions sur la question écologique.
Tout à fait. Il y a pas mal de dates à venir, effectivement, et j'essaye de tenir à jour, pour ceux que ça intéresse, la partie agenda de mon blog, même si j'ai un peu de mal parce que justement les dates s'enchaînent, mais j'essaye au moins de tenir ça à jour.
Et puis de nous faire des comptes rendus sur différents réseaux sociaux. Merci
Exactement.
Pour ça.
Exactement.
Et bien, bonne journée, à la prochaine.
Merci beaucoup, à bientôt.
Interview.
Ok, de bye.
L'interview du jour.